Bonjour chers amis auditeurs, sur le plateau de l'émission de la formation à l'information, je reçois aujourd'hui Antoine Tabar, qui est secrétaire général du comité territorial de l'audiovisuel qui est basé à Toulouse. Bonjour Antoine Tabar.
Bonjour, bonjour à tous.
Écoutez, je suis vraiment particulièrement ravie de vous avoir sur ce plateau parce que vous représentez en région ce qu'on appelle le CSA. Alors Antoine, première question, tout le monde entend parler du CSA. Qu'est-ce que le CSA?
C'est une vaste question.
Ce que ça veut dire déjà.
Tout à fait. Alors le CSA, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Oui.
Donc c'est une autorité administrative, donc une autorité publique, dont je précise tout de suite qu'elle est indépendante, c'est-à-dire qu'elle ne dépend d'aucun ministère, elle n'est sous les ordres d'aucun ministère. Elle est tout à fait indépendante dans son fonctionnement et elle a pour mission de réguler au sens large, et on pourra parler de tout ce que ça implique, l'audiovisuel en France, c'est-à-dire la télévision et la radio notamment, mais aussi un certain nombre d'autres services qui émergent depuis quelques années. Donc c'est un organe à qui le gouvernement a confié cette mission et qui est composé d'un collège donc de membres qui prennent les décisions relatives à ces sujets.
Voilà, donc c'est vous recevez une mission en fait, si je comprends bien. Le CSA date de quelle année exactement? Quand est-ce qu'il a été réellement créé?
Alors, il a largement évolué dans le temps. C'est le début des années 80 pour sa création.
Oui.
Il a subi un certain nombre de modifications au cours de son histoire, notamment d'appellation de haute autorité. Il a fini par devenir CSA, pour qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on lui prête encore des projets d'évolution et de changement de nom éventuellement. On pourra en reparler si vous le souhaitez.
Oui, oui.
Mais voilà, c'est aujourd'hui à peu près 40 ans d'histoire pour le CSA.
D'accord. Et alors, quelle est la mission exacte du CSA?
Alors, comme je le disais, c'est de réguler l'audiovisuel.
Voilà.
Donc, initialement, cette mission, elle repose sur le fait que les services audiovisuels, donc la télévision et la radio, historiquement et toujours principalement, sont des modes de communication qui utilisent une partie du domaine public, donc des fréquences hertziennes. Aujourd'hui, que ce soit pour la télévision avec votre antenne RATO ou votre radio, les radios pour émettre, notamment, utilisent des fréquences. Et ces fréquences, c'est un bien public. Et donc, on considère que pour pouvoir les utiliser, il faut être autorisé à les occuper et ensuite remplir un certain nombre d'obligations et respecter un certain nombre de règles qui sont la garantie qu'elles ne sont pas utilisées n'importe comment. Donc ça, c'est la justification historique de l'existence du CSA, c'est cette existence de domaine public et des fréquences de domaine public.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, de manière beaucoup plus large, sa mission, c'est de faire en sorte que l'audiovisuel, qui est un secteur primordial de par ce qu'il est, c'est-à-dire un outil de communication, un outil d'information, mais aussi de par le nombre des acteurs qui y sont, et aujourd'hui un enjeu économique très fort, soit un secteur qui fonctionne harmonieusement. Et donc pour ça, on est en charge de le réguler sur un certain nombre de points, d'obligations à faire respecter, d'engagements à faire prendre à ses opérateurs, de missions à leur confier, et d'accompagnement à avoir pour l'ensemble de ces opérateurs.
Mmh. Donc au niveau on reviendra un petit peu plus précisément là-dessus, mais au niveau de l'organisation du CPA dans sa structure, donc quelle est l'organisation exacte? Vous parliez d'un collège, du conseil supérieur, donc de l'audiovisuel, mais il y a plusieurs directions, je suppose.
Tout à fait. Alors le CSA en lui-même, c'est 7 personnes, donc 6 conseillers et un président, qui sont nommés par les présidents de la République, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, donc c'est 7 personnes qui sont en eux-mêmes le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Mais évidemment, dans leur travail, ils ne peuvent pas être que 7, et ils ont pour ça, donc pour faire effectuer ce travail, le soutien de services du CSA, donc d'agents du CSA, autour de 250-300 personnes à peu près, qui travaillent à leur côté pour préparer des dossiers, pour étudier les questions, etc., et leur permettre de délibérer, un petit peu comme un conseil d'administration, d'une certaine manière, de prendre l'ensemble des décisions qui sont celles du CSA. Donc, ce sont ces 7 personnes-là qui ont seul pouvoir de prendre des décisions, mais avec l'appui d'un certain nombre de services répartis en plusieurs directions, pour en citer quelques-unes. Et par exemple, une direction des programmes qui s'attache notamment à regarder tout ce qui est le contenu des émissions. C'est une direction que l'on connaît généralement bien parce que elle est au cœur des dossiers les plus médiatiques de notre activité, mais aussi une direction qui concerne les radios, une direction spécifique aux télévisions, mais aussi une direction juridique, une direction des études aussi, puisque ça c'est un point important de notre activité, c'est de mener des études économiques, statistiques, vraiment d'analyse du secteur. Donc on a une direction spécifique pour ça. Voilà, ça c'est notre organisation en général, et je précise, et j'en viens tout de suite à ce qui me vaut d'être là, c'est que le CSA est aujourd'hui la seule autorité administrative indépendante qui est dotée d'échelons locaux.
Parce que là, vous parliez
de ce CSA, il y a des mini CSA, si je puis dire, en région.
C'est cela. Donc c'est pour ça que je commençais par le haut, bien sûr. Donc ce collège de conseil supérieur de l'audiovisuel est à Paris, je suppose, avec les différentes directions dont vous avez parlé, mais il est également ce qu'on appelle décliné en région.
Tout à fait. Voilà, on a fait le choix il y a un certain nombre d'années maintenant, d'avoir des représentations locales du CSA dans les principales villes de France pour être dans tous les endroits du territoire, donc avec ce qu'on appelle des comités territoriaux de l'audiovisuel, des CTA cette fois-ci, du CSA, mais c'est TA, donc comités territoriaux de l'audiovisuel, qui se voient confier par le CSA, la maison mère d'une certaine manière, un certain nombre de missions qui relèvent du CSA, mais que le CSA confie à sa structure locale, à son échelon local, à sa représentation locale, qui est le CTA. Et notamment, donc un CTA à Toulouse, par exemple, qui va avoir des missions en ce qui concerne les médias locaux de la région Occitanie. Voilà. On a un découpage territorial comme ça, par CTA, avec un découpage qui fait que nous sommes compétents sur une zone du territoire donné.
Et donc, en fait, c'était le CTA Toulouse avec la région Midi-Pyrénées, lorsqu'il y avait encore la région Midi-Pyrénées, mais qui est maintenant étendue à l'Occitanie, puisque nous avons, donc sur la région Languedoc-Roussillon, puisque nous sommes la région Occitanie.
Alors ça a toujours été en fait.
Ah, ça a toujours été dans ce sens-là.
Tout à fait. Il n'y a jamais eu notamment de CTA à Montpellier, par exemple.
D'accord.
Il y a toujours eu uniquement un CTA à Toulouse qui a toujours été compétent sur les deux ex-régions.
Ah oui, d'accord.
Il y a des CTA qui sont compétents sur une région, d'autres sur deux. Mais donc aujourd'hui, nous ne sommes plus compétents que sur une seule région, si je puis dire, depuis la fusion. Mais le Languedoc, Roussillon et Midi-Pyrénées ont toujours été sous l'égide du CTA de Toulouse.
D'accord. Ben c'est une. Vous voyez, je pensais éventuellement comme pas mal de personnes. Que effectivement c'était le regroupement de régions qui avait fait que vous aviez augmenté votre pouvoir.
Était précurseur en la matière. On avait anticipé la fusion des régions.
Ah, c'est bien. Donc la structure nationale, vous l'avez donnée. La structure régionale maintenant, comment c'est structuré de la même façon? C'est-à-dire avec
c'est structuré
un
de la même façon,
président,
tout à fait,
oui.
sur le même principe, mais évidemment avec un effectif bien moins important. Donc le comité en lui-même est composé du même nombre de membres que le CSA, c'est-à-dire 6 membres plus un président, en l'occurrence une présidente. Donc on pourra revenir sur qui sont ces personnes.
Oui, tout à fait.
Et au-delà donc de ces 6 membres et de la présidente, c'est 7 membres en définitive qui donc sont en eux-mêmes le comité. Territorial, il n'y a qu'eux qui ont pouvoir de décision, c'est leur délibération qui font les décisions. Ils ont le soutien de 3 personnes, non pas de 250, mais de 3 personnes, donc à Toulouse, qui au quotidien les assistent dans ce travail. Donc c'est un attaché technique territoriale, ATA dans notre jargon, qui a pour mission notamment d'assurer toute la dimension technique de notre travail, on pourra y revenir, et notamment tout ce qui est surveillance, débrouillage, des fréquences, etc., tout l'aspect technique, une secrétaire assistante qui nous aide sur tout notre travail au quotidien, et moi-même qui supervise tout cela, donc en tant que secrétaire général, et qui instruit l'ensemble des dossiers dont le comité a traité, leur fait des propositions, prépare les réunions, et et fait le lien entre le comité et les opérateurs.
Alors, vous disiez tout à l'heure, nous verrons un petit peu plus tard quelles sont ces personnes. Alors, effectivement, moi, je vous pose la question. Donc, quelles sont ces personnes qui sont... est-ce que tout un chacun peut être président du CTA Toulouse, secrétaire général, etc. Donc, comment on arrive à être dans cette branche de l'audiovisuel et du CTA?
Alors, c'est un peu différent pour les membres, donc les sept membres, j'entends membres et présidents confondus, et pour les personnels permanents. Les personnels permanents, nous sommes des salariés du CSA.
Oui, en tant que secrétaire,
Voilà, avec un recrutement en fonction de nos compétences, si on peut le dire comme ça. Pour les membres et la présidente, c'est un petit peu différent, puisque ce ne sont pas des employés à temps plein du CPA. C'est une mission qu'ils assurent en complément de leur activité de travail classique. Ou en complément de leur retraite. Pour certains, ils sont à la retraite,
d'autres sont encore en activité.
Voilà. Alors, ils sont toujours dédommagés pour leur travail, mais ils peuvent, ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est pas un travail à temps plein. Donc, ils peuvent le cumuler avec une activité professionnelle à côté. C'est le cas, on a aujourd'hui dans le comité, par exemple, deux magistrats du tribunal administratif qui sont au quotidien des magistrats du tribunal, mais qui, sur le temps qu'il leur reste, assurent cette mission. Et donc, ces personnes-là, elles sont nommées par le CSA. On essaye d'avoir dans leurs compétences et dans leur profil une complémentarité qui nous permet d'aborder les dossiers de la manière la plus complète possible. Donc je le disais, dans les six membres que nous sommes, alors aujourd'hui il y a une personne qui est en cours de recrutement, enfin un poste qui n'est pas pourvu plutôt, mais donc la présidente et la présidente du tribunal administratif, c'est assez classique, les CTA sont régulièrement présidés par des présidents de juridiction administrative.
D'accord.
Mais nous avons en plus d'elle donc un autre magistrat du tribunal administratif, mais aussi une expert comptable, mais aussi un ancien responsable de fédération radio associative de la région, mais aussi un ancien de l'entreprise TDF, donc spécialisé dans les diffusions de radio et de télévision, une maître de conférence à l'université de Toulouse en sciences de l'information, des profils assez différents qui ont pour but d'enrichir la délibération, tout simplement.
Oui, effectivement, donc un domaine de compétences bien précis quand même, ce qui est tout à fait normal pour parer à certains sujets importants qui concernent le CTA.
Pour complémentarité, on ait la meilleure vision possible de l'ensemble des dossiers dont on a à traiter, qui peuvent être tour à tour très techniques, très administratifs, très financiers, et donc on a besoin de toutes ces compétences-là autour de nous.
Et donc, vous, Antoine Tabar, vous êtes à Toulouse depuis combien de temps?
Eh ben, ça fait 3 ans maintenant. Ça fait 3 ans et moi j'étais initialement, je suis rentré au CSA il y a quelques années maintenant, mais initialement à la direction juridique au CSA.
D'accord.
Et puis voilà, j'ai gravi quelques échelons, passé quelques mois et quelques années dans plusieurs directions. J'étais en charge des questions de distribution, par exemple, de télévision. Je suis passé par le cabinet du président du CSA, par la direction juridique, par la direction des médias télévisuels, enfin voilà, un certain nombre de directions jusqu'à arriver à Toulouse en tant que secrétaire général du CPR.
Donc je pense que vous êtes, on peut dire que vous êtes rompu à cette fonction que vous connaissez quand même sur le bout des doigts. Quoi qu'on dit toujours qu'on ne connaît jamais assez, mais bon.
Je suis pas très ancien dans cette fonction, mais en tout cas, je suis rompu à la maison CSA.
Voilà, c'est ça.
Que je pratique depuis quelques années, à tous ces niveaux et dans toutes ces structures.
C'est clair. Alors, au niveau du CTA Toulouse, c'est exactement, je pense, la même mission qu'au niveau du CSA national, mais qu'est-ce que vous apportez? Quels sont les services et qu'est-ce que vous apportez en plus?
Alors, nos missions, elles découlent en réalité d'une délégation de compétences que nous accorde le CSA.
Oui.
Donc, cette délégation de compétences, elle nous confie la mission d'exercer cette régulation donc des radios et des télévisions pour tout ce qui est radio et télévision locale.
Oui.
Par local, c'est-à-dire les radios qui sont installées ou du moins qui diffusent à un échelon local. Donc, ça va être les radios associatives donc de la région Occitanie,
oui,
ça va être aussi les radios... Voilà, voilà, donc fait partie radioprésence, oui. tout à fait. Ça va être aussi les radios commerciales de la région Occitanie. Mm-hmm. Voilà, c'est radios régionales ou départementales selon leur envergure. Ça va être aussi les déclinaisons locales des réseaux nationaux. Vous savez que les réseaux nationaux tels que Énergie, RFM, voilà, oui. et j'en passe, mm-hmm. pourraient avoir des déclinaisons locales dans un certain nombre de villes mm-hmm. de France. Donc ces déclinaisons locales relèvent du CPA. Et ça sera enfin les télévisions locales, donc qui sont au nombre de 4 dans la région, les 4 services du groupe VIA, donc VIA Occitanie Toulouse, Montpellier, Perpignan et Nîmes. Mm-hmm. Et donc pour tous ces opérateurs-là, on exerce une mission au stade de leur autorisation, de leur première début de leurs émissions, et ensuite de contrôle et de discussion pendant toute leur durée de leur autorisation d'émettre, et donc pendant toute leur existence. Donc au stade de l'autorisation, c'est-à-dire que quand le CSA autorise des radios, si on reste sur les radios qui nous intéressent plus spécifiquement aujourd'hui, une radio souhaite émettre, elle postule un appel à candidature que lance le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Ce qu'on peut appeler appel à fréquence.
Sur une zone. Voilà. Appel à fréquence, appel à candidature. Voilà. On peut l'appeler de plein de manières.
Oui, oui.
En tout cas, elle postule pour, avec un dossier, pour avoir le droit d'émettre sur une fréquence dont on lui dit qu'elle est disponible et qu'elle va lui permettre d'émettre sur telle commune ou telle zone. Et donc, à ce stade-là, lorsque les fréquences mises à l'appel, comme on dit, sont dans le ressort du CTA Toulouse, et bien évidemment, le CTA Toulouse est consulté pour savoir quelles sont ses propositions de sélection pour les radios à autoriser. Mmh. Dit très concrètement, on va recevoir 15 dossiers pour une radio à Cahors, par exemple, parce qu'on aura identifié une fréquence de disponible, mmh. et sur ces 15 dossiers, le CTA fera une proposition au CSA. C'est pas le CTA qui décidera à la fin, c'est bien le CSA.
C'est bien la maison mère à Paris.
Voilà. Oui. C'est la maison mère qui décide, mais sur proposition du CTA, de Toulouse, et au vu notamment de sa connaissance du secteur.
Mmh. Donc avant de continuer un tout petit peu sur les radios locales, puisque nous sommes Radio Présence, Cahors, une radio locale dépendant du réseau Présence, les chiffres un petit peu au niveau des différentes des radios qui existent en région Occitanie, tant les radios associatives que les radios commerciales que les grandes radios, il y a au total peut-être des grandes radios et radios commerciales qui ne sont pas forcément associatives, mais quel est le chiffre, hein?
Alors aujourd'hui, c'est en les radios associatives de la région Occitanie, c'est environ 95 services, 95 radios. Tout dépend un petit peu de comment on compte. Certains radios peuvent avoir ce qu'on appelle des décrochages locaux, donc qui représentent des services un petit peu distincts. Retenons ce chiffre-là, environ de 95. Ensuite, c'est environ 25 opérateurs commerciaux locaux. Ce à quoi il faut ajouter enfin les opérateurs donc de catégorie C, c'est-à-dire les décrochages locaux des réseaux nationaux, et là aussi on est autour d'une vingtaine.
Donc ça fait à peu près de l'ordre de 150 radios au total. Avec un certain nombre de
circuits. C'est fluctuant selon les années, etc.
Mais
c'est un ordre de grandeur qui est c'est de cet ordre-là.
Oui, tout à fait. Et donc, un certain nombre de radios également associatives, 95 pour la région Occitanie, je ne sais pas, je n'ai pas une idée des chiffres dans les autres régions, mais ce qui peut s'apparenter à être pas mal du tout.
C'est pas peu s'apparenter. Aujourd'hui, le CTA de Toulouse et le CTA qui a dans son giron, si je puis dire, le plus d'opérateurs de tous les CTA. Simplement parce que déjà il y a une tradition, une histoire de la radio très forte en Occitanie qui fait qu'il y a notamment un très grand nombre de radios associatives, et aussi parce que c'est une région administrative qui est très vaste et donc qui amène forcément à avoir plus d'opérateurs que des régions géographiquement plus petites.
Donc tout ceci nous amène, et nous avons eu l'occasion de vous recevoir au sein de Radio Présence Cahors.
J'avais eu grand plaisir à venir.
Voilà, nous aussi, de faire votre connaissance, parce que nous ne vous connaissions pas. Et ça a été un apport, et je pense que pour les radios locales, donc on va parler des radios associatives, puisque nous en sommes une, C'est un grand atout de vous avoir parce que vous nous amenez des informations, vous nous amenez la loi, vous nous amenez un certain nombre de choses importantes à notre connaissance.
Tout à fait, mais ça c'est ça me frappe beaucoup que vous disiez ça et ça me touche beaucoup d'une certaine manière parce que je crois que c'est vraiment une des missions qui est souvent mal connue nous concernant et qui pourtant est primordiale. C'est-à-dire je crois qu'il faut se départir de l'idée que le CSA et donc les CPA pour les en région sont des organismes de contrôle. On a tendance à parler régulièrement du CSA gendarme, du CSA
oui,
qui contrôle.
Oui, c'est un petit peu ce que j'allais vous dire.
Voilà. Alors c'est évidemment une partie de notre travail à partir du moment où la mission qui nous est confiée, la loi fixe un certain nombre d'obligations aux opérateurs radio et télévision. Notre mission étant de le faire respecter, il est évident que il nous arrive de contrôler, de vérifier, voire de sanctionner. Mais c'est loin d'être notre mission primordiale, si je puis dire, dans le sens où notre première mission, c'est d'avoir ce rôle de lien, ce rôle d'information, ce rôle d'explication vis-à-vis des opérateurs, justement sur ce que sont ces règles parfois complexes, parfois mal connues, et a fortiori à l'échelon local, où je ne vous apprends rien, quand il y a des renouvellements d'équipes dans des radios associatives, par exemple, et ben parfois l'information se perd dans ces circonstances-là.
Oui.
C'est des structures qui ont fort à faire, et vous avez énormément de choses à gérer en gérant une radio.
Effectivement.
Que ce soit les émissions elles-mêmes, les aspects administratifs, les finances, tout ça, les ressources humaines, pour que parfois les obligations vis-à-vis du CSA soient mal connues, oubliées ou en partie connues. Et donc c'est l'une de nos missions, c'est voilà de venir vous renseigner là-dessus, de faire connaissance et de vous expliquer sur ce que sont que les enjeux de la diffusion d'une radio du point de vue des règles. Et puis deuxième élément, c'est que je crois que notre rôle c'est aussi d'être vis-à-vis du CSA le meilleur reflet possible de vos préoccupations locales, des enjeux locaux, des difficultés locales que peuvent avoir les opérateurs. Et donc de ce point de vue-là, il est évidemment primordial qu'on ait nous-mêmes une bonne connaissance de ça. Et cette connaissance, on ne peut l'avoir que par la rencontre avec vous. Et on ne peut l'avoir qu'en échangeant avec vous sur les difficultés que vous rencontrez, les atouts que vous avez, les projets que vous avez, les questions que vous avez. Voilà, notre rôle, c'est vraiment d'être cette courroie de transmission entre les opérateurs et le CSA.
D'accord, très bien. Nous avons pu d'ailleurs en bénéficier l'année dernière. Je me souviens d'un rendez-vous fort agréable dans la mesure où vous nous avez apporté mais énormément et on sait aussi que vous êtes là pour toute information nécessaire à notre connaissance. Quelle autre mission ? Donc vous avez cette mission d'information, cette mission de mieux vous faire connaître. Quels sont les autres éléments de mission que vous pouvez avoir auprès d'une radio locale ?
Alors, ensuite, il y a évidemment ce que je disais qui n'était pas notre rôle primordial, mais qui existe néanmoins, c'est le contrôle du respect des obligations.
Voilà.
Puisque les radios, à partir du moment où elles sont autorisées à émettre, ont un certain nombre d'obligations. Alors, ces obligations, elles sont de trois ordres, on va dire. Premier ordre technique, c'est-à-dire que quand on autorise une radio à émettre, elle doit le faire selon les conditions techniques que le CSA lui a imposées.
Voilà.
Émettre sur la bonne fréquence, émettre à la bonne puissance, etc., pour garantir un non-brouillage des radios entre elles et garantir le fait que chaque radio a le droit de couvrir sa zone de diffusion de manière correcte, sans empiéter sur les autres et sans soi-même se voir empiéter sur sa zone. Donc ça, c'est ce que je disais au début, on a une personne en charge de ces questions techniques spécifiquement. Donc là, c'est à la fois une protection qu'on apporte à la radio contre des brouillages venant de l'extérieur et aussi une vérification du fait que la radio elle-même respecte bien les règles en la matière. Le deuxième domaine, c'est l'aspect administratif, on va dire, sur lequel il y a un certain nombre de documents à fournir au comité tous les ans, notamment pour qu'on puisse s'assurer régulièrement de la situation de la radio et avoir la bonne connaissance de la situation administrative et financière, notamment de la radio. Et le troisième point, c'est évidemment la dimension programme, puisque ça fait un petit moment qu'on parle maintenant et on n'a pas encore parlé de programme. Or, c'est évidemment le cœur de la radio.
Tout à fait.
C'est ce qu'elle émet, c'est ce qu'elle diffuse, c'est ce que l'auditeur entend, c'est ce pourquoi on vous écoute. Et de ce point de vue-là, lorsque la radio est autorisée à émettre, elle est autorisée sur un projet éditorial. Et donc, le rôle du CTA, via une convention que l'on signe avec les radios,
voilà,
c'est de faire en sorte que ce projet éditorial qui était à l'origine de la radio continue bien à se ressentir à l'antenne, à s'entendre à l'antenne, via un certain nombre d'obligations, et on n'est pas forcément là pour rentrer dans tous les détails techniques, mais somme toute, la radio prend un certain nombre d'engagements du point de vue de sa ligne éditoriale, et il appartient au CSA de vérifier, donc au CPA, de vérifier que ces engagements sont bien respectés. Pour faire tout simplement en sorte que le paysage que le CSA a déterminé en sélectionnant des radios soit le plus complet possible, qu'une radio musicale à destination des jeunes ne devienne pas une radio d'information, qu'une radio confessionnelle ne devienne pas une radio musicale, etc., etc. Et donc, pour ça, voilà, il y a des engagements qui sont pris lors de conventions, et ça fait partie d'un travail important de notre côté, c'est de vérifier que ces conventions sont bien respectées.
Effectivement, c'est tout à fait, vous avez expliqué ce à quoi je voulais arriver, donc ces signatures de conventions. Mais ces signatures de convention jusqu'en 2017 avaient lieu donc tous les 5 ans lors de ce qu'on appelle le renouvellement des fréquences. Mm-hmm. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots sur ce renouvellement des fréquences par rapport
à... L'idée, c'est que les radios, quand elles sont autorisées à émettre pour une durée de 5 ans. L'autorisation qu'on leur délivre est valable pour 5 ans. Mais la loi a prévu que au bout de 5 ans et au bout de 10 ans, donc au bout de deux échéances, on va dire, il est possible pour le CTA et donc pour le CTA de renouveler cette autorisation au prix simplement d'une renégociation et d'une rediscussion et d'une remise à plat des engagements de la radio vis-à-vis du CSA, vis-à-vis de sa programmation. Donc cette reconduction, comme vous dites, ce renouvellement, c'est une négociation de gré à gré, on va dire, entre le CSA au bout de 5 ans. On vérifie que tout va bien et on repart pour une durée de 5 ans. L'autorisation est renouvelée pour 5 ans. Mais la loi ne permet pas de faire ça plus de deux fois. Donc ce qui fait qu'au bout de 15 ans, si vous avez suivi mon calcul, au bout de 15 ans, la radio est obligée de repasser à nouveau par une étape dite de l'appel à candidature. C'est-à-dire que comme elle l'a fait au tout début de son existence, elle doit recandidater avec un dossier, avec un projet de radio qui peut être et qui est souvent le même que celui qu'elle assure au moment où elle postule, mais en tout cas elle doit à nouveau faire acte de candidature et à nouveau voir son projet confronté à d'autres projets, puisqu'à ce moment-là, évidemment, comme il y a appel à candidature, il y aura plusieurs candidats qui pourront proposer un projet alternatif. D'accord. À celui qui occupe la fréquence depuis 15 ans. D'accord. Et à ce moment-là, le CPA remet les choses à plat, prend l'ensemble des dossiers et voit si, oui ou non, la radio qui est là depuis 15 ans doit être à nouveau autorisée ou si c'est un autre projet qui doit être préféré.
Mmh. Alors, je pense que le prochain renouvellement des fréquences ce qu'on appelle la remise au pot commun, sera en quelle année, Antoine Tabar?
Alors ça dépend de radio par radio, parce
D'accord.
que il y a des appels à candidature très très régulièrement, mm-hmm. et donc le démarrage de l'autorisation initiale n'est pas à la même date pour tout le monde, mm-hmm. Forcément cette remise au pot comme vous dites, elle n'est pas la même pour tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que là en 2021 et en 2022 ensuite, on va avoir deux très grosses vagues d'appels à candidature. Mm-hmm. La première qui concernera quasiment toutes les fréquences de l'ex-région Languedoc-Roussillon et l'année suivante quasiment toutes les régions de l'ex-Midi-Pyrénées. Donc sur 2021-2022, on aura la remise au pot, comme vous dites, d'une très très grande partie des fréquences de la région Occitanie.
D'accord. Écoutez, Antoine Tabar, merci beaucoup de nous avoir éclairé déjà dans un premier temps, parce que nous espérons pouvoir vous interviewer sur d'autres domaines bien plus précis comme le DAB+, comme les radios numériques, etc. Donc, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce qu'était le CSA et le CTA et le rôle précis auprès de nos radios locales, donc comme Radio Présence dans le Lot, Radio Présence Lot et Radio Présence Cahors plus précisément. Je vous remercie beaucoup. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Antoine Tabar, je vous dis à très bientôt. Et au revoir. Au revoir à
Merci,
vous
au revoir.
Et bonne continuation.